Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. La prédication de ce matin est intitulée « Comment prions-nous quand notre vie chancelle ?» Eh bien, je vous invite à un moment de prière. Père Céleste, alors que David était éprouvé et invoquait ton nom, il terminait son intercession au psaume 13 dans ces termes. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Nous aussi, Seigneur, nous voulons avoir confiance en ta bonté, car toi seul es réellement bon. Tu es vraiment bon. Nous voulons avoir de l'allégresse dans notre cœur à cause de ton salut par grâce pour nous misérables pécheurs. Nous voulons te chanter, car tu fais concourir toutes choses à notre bien. Amen. Nous pouvons remercier, frères et sœurs, chers amis, Dieu pour toutes les choses utiles et agréables dont il nous a permis de jouir pendant l'année 2020. Oui, nous pouvons, nous devons compter les bienfaits de Dieu et l'en remercier de tout notre cœur. Ces choses utiles et agréables dont nous avons bénéficié ne doivent pas nous faire oublier la souffrance des autres. Alors que nous avons profité des bienfaits agréables de Dieu, d'autres ont vu leur vie en partie ou complètement bouleversée. Il y a ceux qui ont eu des soucis de santé et qui ont dû se rendre à l'hôpital pour subir des examens ou une ou plusieurs interventions chirurgicales. Il y a encore ceux qui rencontrent des problèmes de tout ordre avec divers degrés de gravité. Il y a encore ceux pour qui la persécution est une réalité quotidienne. La souffrance est une réalité qui nous touche un jour ou l'autre. Comment prions-nous quand notre vie chancelle? Comment prions-nous quand nous sommes durement éprouvés? Il y a peut-être parmi nous plusieurs personnes qui passent par des moments très difficiles. Comment prions-nous quand notre vie chancelle? Afin que nous soyons encouragés et que nous sachions comment prier quand notre vie chancelle, j'aimerais que nous considérions ce matin une expérience que l'apôtre Paul a faite alors qu'il priait dans des moments très difficiles. Quand l'apôtre écrit la deuxième lettre aux Corinthiens, il fait face à plusieurs accusations. On dit qu'il n'est pas sincère, qu'il est malhonnête, qu'il est orgueilleux, qu'il est un incapable et qu'il n'est pas vraiment un apôtre. Paul défend l'autorité que le Seigneur lui a conférée. Il fait éclater les preuves de son apostolat. Il fait éclater les preuves de l'approbation du Seigneur dont la puissance s'accomplit au travers de la tribulation. Les accusateurs de Paul cherchaient les honneurs et disaient qu'ils avaient des lettres de recommandation. Paul ne cherchait pas l'approbation des hommes, il laissait au Seigneur le soin de l'honorer. Ouvrons notre Bible pour voir comment prier quand notre vie chancelle. Ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10. De Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment prions-nous quand notre vie chancelle? Nous pouvons prier de 3 façons différentes. La première façon de prier quand notre vie chancelle est de demander au Seigneur que l'épreuve nous soit enlevée. Nous pouvons demander au Seigneur de nous permettre d'échapper à la souffrance. C'est notre façon la plus spontanée de prier. Si vous êtes atteint d'une grave maladie, par exemple, vous demanderez au Seigneur de vous guérir. Si vous passez un examen, vous demanderez au Seigneur de vous donner le succès. C'est d'ailleurs pour nous un critère de bénédiction que d'avoir le succès aux examens. Si vous vous retrouvez dans une situation très inconfortable et que vous estimez qu'une chose précise arrangerait bien votre situation, vous demanderez au Seigneur de vous donner cette chose précise. En résumé, nous demandons au Seigneur d'enlever une chose pour nous donner une autre chose. Donne-moi la santé au lieu de la maladie. Donne-moi la délivrance au lieu de l'épreuve. Donne-moi le succès au lieu de l'échec. Donne-moi la force au lieu de la faiblesse, etc. Permets-moi, Seigneur, d'échapper à la souffrance, disons-nous dans nos prières. Cette façon de prier est habituelle et on ne peut pas nous en vouloir si nous prions de la sorte. Paul a demandé à 3 reprises que son écharpe lui soit enlevée. Il a peut-être demandé à l'apôtre Luc, qui était médecin, s'il n'avait pas dans sa pharmacie un remède contre son mal ou s'il n'y avait pas un autre moyen de le soulager ou de le guérir. Dieu a guéri bien des personnes suite à leur prière. Pour apprendre à mieux prier quand notre vie chancelle, il y a un élément important que nous devons prendre en considération. Pour mieux prier quand notre vie chancelle, il y a un aspect capital de l'ancienne alliance que nous ne devons pas négliger. Paul était juif de naissance et Dieu avait fait une alliance avec le peuple juif. Dieu avait promis au peuple juif des bénédictions matérielles mais aussi physiques. Si le peuple y obéissait et observait ses lois, Dieu lui donnerait des richesses, du succès dans ses entreprises, une récolte abondante, de nombreux troupeaux, une famille nombreuse et la victoire sur ses ennemis. Regardons cela en Deutéronome, chapitre 7, versets 12 à 15. Deutéronome, chapitre 7, versets 12 à 15. Deutéronome, chapitre 7, verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Nous lisons cela au verset 15 de Deutéronome chapitre 7, verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Avec une telle promesse, frères et sœurs, chers amis visiteurs, avec une telle promesse, comment ne pas prier pour la guérison? Comment ne pas prier que pour la guérison? Ceci étant, nous devons nous poser deux questions. Premièrement, est-ce qu'aujourd'hui, la réponse à nos prières repose sur le même fondement que celui qui est présenté dans la référence que nous venons de lire? Est-ce que sous la nouvelle alliance, nous avons reçu les mêmes promesses de guérison et de prospérité faites à Israël sous l'ancienne alliance? C'est la première question. La deuxième question est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il donné à Israël ses promesses? Répondons à ces deux questions. Tout d'abord, la première. Beaucoup de références, de citations, de versets qui concernent la guérison se trouvent dans l'Ancien Testament. Quand le Nouveau Testament parle de la guérison, il utilise des citations de l'Ancien Testament en général. Dieu a promis la guérison et la prospérité à Israël, mais il n'a pas fait de telles promesses à l'Église du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne parle pas de confort et de sécurité au sens où l'homme aspire souvent. Le Nouveau Testament parle d'un pèlerinage, d'une lutte, d'un combat, de sacrifice, de persécution. Dans Actes, chapitre 14, verset 22, nous lisons « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » La réponse, maintenant donnons la réponse à la deuxième question. Pourquoi Dieu a-t-il donné ses promesses à Israël? La nation d'Israël était en enfance. Et comme un enfant, elle devait apprendre au moyen des récompenses et des punitions. Au travers des promesses, Dieu disait « Si vous m'obéissez, je vous bénirai. Si vous désobéissez, je vous punirai. » C'est ainsi que l'on procède avec les enfants. Ils sont immatures et on doit utiliser les récompenses et les punitions. Mais il arrive un jour où les enfants doivent être capables d'obéir non par contrainte extérieure, non par crainte, non pour en tirer un certain bénéfice. Ils doivent être capables d'obéir par une contrainte intérieure, par amour. Les enfants doivent être capables d'obéir parce que l'obéissance est juste. Lorsque Jésus-Christ est venu accomplir les promesses de l'Ancien Testament, la nation d'Israël devait passer de l'enfance à la maturité. Ceux qui étaient sous la loi devaient marcher par la foi en Christ et passer ainsi de l'état d'enfant à celui de fils. Nous lisons dans Galates chapitre 3, versets 23 à 26. Galates chapitre 3, versets 23 à 26. « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Nous lisons encore dans Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Les enfants sont immatures et ont besoin d'être continuellement récompensés ou punis. Les fils et les filles sont matures et obéissent par amour et non par intérêt. Dieu veut que nous soyons des fils et des filles. Ainsi, il est normal de prier pour échapper à la souffrance. Mais soyons prudents. Nous pouvons tellement désirer une chose que nous finissons par croire que Dieu est obligé de répondre à notre prière. Nous trouvons un exemple dans l'Ancien Testament. Considérons le cas de Job. Satan disait que Job obéissait à Dieu parce qu'il était richement béni. Satan accusait Job d'avoir une piété, une foi commerciale. Inconsciemment, les trois amis de Job ont joué le jeu de Satan. Ils encourageaient Job à confesser ses péchés pour que Dieu le bénisse à nouveau. Ils encourageaient Job à marchander avec Dieu pour l'amener à changer les circonstances. La femme de Job aussi a joué le rôle de Satan en l'encourageant, comme ses trois amis, à une foi commerciale. Elle disait en substance à Job, « L'affaire n'est plus rentable, mais y un terme. » Elle encourageait Job à blâmer Dieu parce qu'il avait rompu le contrat et ne plus faire affaire avec lui. « Maudit Dieu et meurs, » dit la femme de Job à son mari, dans Job chapitre 2, verset 9. Aujourd'hui, certaines personnes vont pousser les chrétiens qui souffrent à se mettre en règle avec Dieu ou à avoir plus de foi. Ainsi, Dieu va les bénir, Dieu va les délivrer. C'est une foi commerciale. Cela demande à celui qui souffre de retomber en enfance au lieu de grandir en maturité. L'apôtre Paul a prié trois fois que les chardes lui soient enlevées, mais Dieu n'a pas exaucé sa prière. Paul aurait pu devenir amer. Il aurait pu être déçu au point d'en vouloir à Dieu, ou d'en vouloir aux hommes, ou au point d'être découragé à l'extrême. Mais Paul n'est pas devenu amer parce qu'il avait prié avec foi. Il a prié trois fois, tout en disant que ta volonté se fasse et non la mienne. Paul a prié avec foi. Et la foi nous met en relation avec les ressources divines. Les ressources divines permettent de changer la déception en victoire. C'est là le témoignage de Hébreux chapitre 11. Au début du chapitre 11 d'Hébreux jusqu'au verset 35, un grand nombre de personnes a été délivré parce qu'elles avaient placé leur confiance en Dieu. Mais à partir de la deuxième partie du verset 35, il est fait mention de d'autres. D'autres qui avaient placé leur foi en Dieu ont été livrés et n'ont pas échappé à leurs difficultés. Ainsi, certains ont été délivrés et d'autres livrés. Dieu peut délivrer de l'épreuve, mais elle peut aussi nous délivrer dans l'épreuve. Dans tous les cas, Dieu est glorifié et il honore notre foi. Que nous soyons délivrés, que nous soyons livrés. Votre épreuve est peut-être comme ce géant de Goliath qui harcelait l'armée d'Israël jour et nuit. Ou votre épreuve est peut-être comme l'écharde qui fait souffrir Paul depuis 14 ans. Courage frère, courage sœur, courage ami, Dieu est souverain. Vous avez prié plusieurs fois que Dieu vous permette d'échapper à la souffrance et rien n'a changé. Dieu est capable de faire de bonnes choses pour vous, des choses que vous n'aviez pas imaginées. Nous verrons ça dans quelque temps. Mais avant cela, examinons la deuxième façon de prier quand notre vie chancelle. Dans cette deuxième façon de prier, nous pouvons demander à Dieu de nous permettre de supporter la souffrance. Je veux dire par là que nous pouvons demander à Dieu de nous aider à serrer les dents pour tenir bon jusqu'au bout. Aide-moi, Seigneur, à puiser dans mes ressources pour traverser cette épreuve. C'est un peu comme cette cuillère d'huile de foie de morue qu'il faut avaler. Il faut du courage, juste le temps de l'avaler. Nous avons vu que Paul était juif de naissance, mais Paul était aussi citoyen romain. Les Romains savaient ce qu'était l'endurance. Ils étaient influencés par la philosophie stoïcienne qui mettait en valeur l'obéissance au devoir, le courage et l'indifférence devant la douleur. Paul connaissait les écrits stoïciens car il a cité deux de leurs poètes. Épiménide, dans Actes chapitre 17, verset 28, « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Et le deuxième poète s'appelle Aratus, et Paul en fait une citation dans Actes chapitre 17, verset 28, « De lui, nous sommes la race. » On peut, sans difficulté, penser que Paul n'était pas quelqu'un de douillet, et qu'il savait supporter la souffrance sans se plaindre. Mais le fait de compter sur l'endurance soulève quelques problèmes. Tout d'abord, tout le monde n'est pas un Paul. Nous n'avons pas tous la même capacité à résister à la souffrance. Nous n'avons pas tous naturellement la même force intérieure pour être un stoïcien. Ensuite, le fait de recourir à l'endurance glorifie l'homme plutôt que Dieu. Même pas mal, dirons-nous. Regardez combien je suis fort, combien je suis courageux. L'écharde dans la chair de Paul était là pour le préserver de l'orgueil. Avoir recours à l'endurance humaine n'aurait pas fait de Paul un homme humble, mais bien plutôt un homme orgueilleux. L'endurance humaine aurait aggravé le problème de l'orgueil. Enfin, nos ressources intérieures ont une limite, et quand on en fait un usage continuel, elles finissent, au bout d'un certain temps, par s'épuiser. Si je les utilise pour endurer la souffrance, il se peut qu'il ne me reste rien pour faire face aux autres obligations de la vie, et je peux finir par m'effondrer. Certainement, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, l'endurance est la seule façon de résoudre le problème de la souffrance. Par contre, si nous sommes des enfants du Seigneur, sauvés par grâce par le moyen de la foi, il existe une bonne façon de prier quand notre vie chancelle. Si nous avons commencé à prier pour échapper à la souffrance et que Dieu n'a pas répondu à cette prière, alors il existe une troisième façon de prier qui est bonne. Nous pouvons demander à Dieu de faire notre souffrance travailler pour nous et non contre nous. C'est la troisième façon de prier qui est la bonne. Si je demande à Dieu de me faire échapper à la souffrance, je dis que la souffrance est mon ennemi. Si je demande à Dieu de m'aider à supporter la souffrance, je dis que la souffrance est mon maître. La souffrance ne doit être ni mon ennemi, ni mon maître. La réponse que Dieu donne à Paul après qu'il eut prié à trois reprises nous enseigne que la souffrance doit devenir notre servante. Elle doit travailler pour nous et non contre nous. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ainsi, nous apprenons trois choses de notre passage. Première chose, la souffrance peut être vue comme un don. C'est au verset 7 de notre passage que nous lisons « Il m'a été mis une écharde dans la chair ». Cette écharde n'est pas venue par hasard. Cette écharde était un don de Dieu pour empêcher Paul de s'enorgueillir. Et on voit deux fois cette idée de ne pas grandir en orgueil. Verset 7, au début et à la fin. C'est probablement cette découverte, la découverte que l'écharde est un don de Dieu qui a fait que Paul a cessé de prier pour que l'écharde lui soit enlevée et qu'il a commencé à lui accorder toute sa valeur. Au lieu de demander à Dieu d'ôter nos limites, nous devrions plutôt leur accorder toute leur valeur, car elles nous maintiennent dans l'humilité et nous rendent efficaces pour Dieu. Nous devons accepter la souffrance comme un don. La deuxième chose que nous apprenons de notre passage, c'est que Dieu nous parle dans la souffrance. Nous devons nous attendre à lui, nous devons l'écouter dans ces moments-là. Tandis que nous souffrons et que nous prions, passons plus de temps dans la parole de Dieu. Dieu a un message particulier pour nous et pour la circonstance. Dieu dit à Paul, dans ce passage que nous lisons, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu ne donne pas d'explication, mais il fait une promesse. La grâce de Dieu est la réponse de Dieu à nos besoins au moment où nous en avons besoin. Elle ne vient jamais à manquer pour remplir notre ministère, par exemple. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 6. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà la grâce de Dieu pour remplir notre ministère. Mais la grâce de Dieu, elle est toujours présente, elle ne manque jamais pour répondre aussi bien à nos besoins matériels qu'à nos besoins physiques. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 et 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 nous lisons « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ainsi, frères et sœurs, ainsi, chers amis, la grâce de Dieu qui suffit pour nous sauver, suffit aussi pour nous garder et pour nous fortifier. Ce qui semblait être une tragédie dans la vie de Paul s'est transformé en bénédiction. Dieu n'a pas supprimé la souffrance, mais Dieu a ajouté à la souffrance un nouvel ingrédient, sa grâce, pour que la souffrance soit une servante. Paul s'est glorifié de ses infirmités. Ses infirmités devenaient des atouts. Paul confessait, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand vous savez que vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort. » Paul a expérimenté la puissance de Christ dans sa vie. Nous devons écouter le message du Seigneur pour apprendre à vivre de sa grâce quand nous passons par nos moments difficiles. La troisième chose que nous apprenons dans notre passage, c'est que nous devons vivre tout pour la gloire de Dieu. Et au verset 10 de notre passage, nous lisons « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Voilà, c'est la troisième chose que nous devons retenir. Nous devons vivre toutes choses pour la gloire de Christ. Alors, frères et sœurs, chers amis, quand notre vie chancelle, prions. Mais n'essayons pas de manipuler Dieu pour que notre volonté s'accomplisse plutôt que la sienne. Comptons davantage sur la grâce de Dieu. Attendons-nous à lui. Soyons plus reconnaissants. Prions et laissons la prière nous faire oublier notre propre désir. Laissons la prière nous conduire à désirer la volonté de Dieu. Si nous sommes faibles, alors nous sommes forts en Christ. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9 « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 « Je vous laisse avec cette parole, frères et sœurs, chers amis, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. »